bienvenue dans Far FM Paris Tour. Mon invité, Coralie, qui m'a rejoint du comité protestant évangélique pour la dignité humaine. Bonjour Coralie.
Bonjour Matt.
Je suis vraiment ravi de vous accueillir sur ce plateau. Merci d'être là.
Mais moi aussi, je suis ravie.
Vous êtes chargée de plaidoyer et de communication donc pour le comité protestant évangélique pour la dignité humaine. Je rappelais juste que c'est une organisation qui a pour objectif de promouvoir, de défendre la dignité humaine dans les débats de société en sensibilisant sur les sujets éthiques et en encourageant l'engagement citoyen des chrétiens avec trois mots qui sont forts pour vous: informer, prier, agir. Et vous agissez également durant ces Jeux Olympiques avec différents outils que vous avez créés. Est-ce qu'on peut rapidement les présenter? On pourrait parler du livret et des différents outils que vous avez développés.
Oui, tout à fait. Merci pour l'introduction. Donc, nous, le CPDH, on est vraiment une organisation de plaidoyer. Et on travaille notamment sur la traite des êtres humains avec le collectif Ensemble contre la traite, qui regroupe une quarantaine d'associations, dont le Secours catholique. Et là, notre travail sur les JO, ça a été de concevoir une grande campagne de communication avec différents outils. Et effectivement, on a un livret d'une centaine de pages qui est à la fois pratique et un outil de pédagogie. Donc on a des petites BD notamment dans ce livret qui est téléchargeable sur le site contrelatraite.org. Je me permets de le citer.
Ah, il faut le citer, hein, contrelatraite.org.
Intéressé. Il y a des affiches qu'on peut télécharger en plus du livret. Et ce qu'on a voulu faire en termes de sensibilisation et de pédagogie, donc c'était vraiment de mettre ces BD disponibles à la fois en version papier et en version digitale, et d'en faire aussi des clips vidéo. Donc ces petits clips de quelques secondes permettent notamment de comprendre les différentes formes de traite des êtres humains dont on va parler et l'impact des JO sur ces phénomènes. Et après, on a conçu, en plus donc, du livret et des clips, un e-learning en fait. Donc c'est un parcours 100% digital pour tous ceux qui le veulent et qui sont intéressés par la question, pour un petit peu monter en connaissance, qu'on peut faire via le site internet, donc contrelatraite.org.
Il faut aller voir ce site pour plus d'informations. On va définir aussi rapidement en quelques mots, qu'est-ce que la traite des êtres humains aujourd'hui ?
Oui, bonne question, parce que c'est un vocable, un mot qu'on n'utilise pas beaucoup en français en réalité et qu'on ne connaît pas bien dans le grand public. Donc la traite des êtres humains, la définition légale, c'est vraiment le fait de transporter une personne par la contrainte, donc ça peut être la menace, la violence, etc., à des fins d'exploitation. Donc pour exploiter son corps, son travail, même aujourd'hui la gestation pour autrui vient d'être reconnue par l'Union européenne comme une forme de traite des êtres humains. Donc le fait, c'est vraiment de prendre une personne, de la déplacer par la contrainte pour l'exploiter. Et effectivement, on a différentes formes de traite des êtres humains. Donc l'exploitation sexuelle, c'est celle qui est la plus connue et la plus répandue. En France, c'est 76% des victimes de traite qui sont victimes d'exploitation sexuelle. Mais il y a aussi l'exploitation par le travail. Donc une forme qui va de l'exploitation à l'esclavage domestique, et la contrainte à commettre des délits, qui est quelque chose d'un petit peu plus marginal et moins connu, mais c'est par exemple des jeunes qui seraient contraints à voler dans le métro, à mendier dans la rue, etc. Des phénomènes qui, je pense, vont se voir pas mal dans Paris ces deux prochains jours.
Ouais, je pense aussi. Pendant ces Jeux Olympiques de Paris, finalement, comment ces JO peuvent-ils influencer la traite des êtres humains?
Oui, effectivement, il y a pas mal de questions qui se posent par rapport aux Jeux Olympiques et aux grands événements sportifs de manière générale. Juste peut-être pour revenir sur la traite des êtres humains, donc aujourd'hui, on estime à 50 millions de victimes dans le monde. Et en France, en 2022, on a identifié environ 4000 victimes de traite. Ce qui est peu, mais voilà, pour un phénomène illégal, c'est quand même assez compliqué d'avoir des estimations statistiques fiables, puisque par principe, c'est quelque chose qui est caché. Nous, par rapport aux Jeux Olympiques, on estime que forcément c'est une aubaine pour les trafiquants du fait de l'afflux de touristes à Paris et en France de manière générale. Le premier risque, c'est l'accroissement de l'exploitation sexuelle. Donc, exploitation sexuelle, effectivement, il y a la prostitution, mais pas que, puisque comme je disais tout à l'heure, c'est le fait vraiment qu'il y ait une contrainte exercée sur la personne. Dans d'autres pays où il y a eu des événements majeurs, comme les Jeux ou d'autres événements, les prostituées ont estimé une hausse de 30% du nombre de clients, de demandes pour des services sexuels. En France, il faut savoir qu'on a un modèle qu'on appelle nordique, donc de répression et de pénalisation des clients de prostitution. Donc ça, je pense que c'est bien de le redire. Donc,
ça veut dire quoi, ce modèle nordique ?
Ça veut dire qu'effectivement, on ne pénalise pas la prostituée elle-même, mais on a créé des parcours de sortie de prostitution en France pour les personnes, femmes ou hommes, qui voudraient sortir du système prostitutionnel. Par contre, les clients de prostitution pris en flagrant délit sont soumis à une amende qui va de 1 500 € pour un fait isolé à 3 000 € en cas de récidive. Donc ça, c'est une spécificité française, puisque ça existe en Suède et en France. On est les deux seuls pays au monde à avoir ce système abolitionniste. Voilà, bon, je ne vais pas revenir sur les problématiques de l'application de la loi, parce que ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Voilà, donc on ne sait pas trop en France comment cela va se traduire. Effectivement, il va y avoir une demande accrue de services sexuels, bon, certainement. Si derrière, on va avoir des femmes, des hommes et des enfants recrutés pour ces services ou pas par des réseaux, on ne sait pas comment ça va se passer. En tout cas, le ministère de l'Intérieur s'est positionné sur une campagne pour contrôler davantage les lieux de prostitution. Donc, on verra bien. Ce qui nous inquiète, c'est la question de la prostitution des mineurs. Donc des jeunes filles principalement, parce qu'on a, c'est un rapport du Sénat qui nous dit qu'il y a eu plus 300% d'augmentation entre 2019 et 2020 de prostitution des mineurs, donc c'est quand même énorme. Et aujourd'hui, les mineurs représentent 30% des personnes en situation d'exploitation sexuelle en France. Voilà. Et donc on sait qu'il va y avoir certainement des phénomènes de recrutement, notamment via les réseaux sociaux. Et ça, c'est quelque chose qui nous inquiète beaucoup. Il y a la question de l'exploitation par le travail, notamment sur les chantiers autour des installations pour les JO, des personnes qui seraient en situation irrégulière et qui se retrouveraient dans des conditions de travail et de vie indignes. Ça, c'est un phénomène qu'on a vu dans tous les pays où il y a eu des Jeux et des événements de cette ampleur et qui se passe en France. Voilà. Et bon, il y a la question de la contrainte à commettre des délits. De jeunes notamment qui font partie de réseaux plus ou moins organisés et qui vont être contraints dans les transports, dans les lieux publics, monuments, lieux d'événements sportifs, à mendier ou à voler. Pour identifier les victimes, donc forcément c'est... Bon, il y a des professionnels hein, qui sont aptes à le faire, notamment les forces de l'ordre. Et les associations spécialisées. Après, globalement, pour voilà, nous tous, civils, citoyens, ce qu'on peut faire, c'est repérer peut-être des personnes qui, alors souvent d'origine étrangère, qui auraient l'impression d'être un petit peu perdues, avoir peur de parler, ne pas... être libres en fait de leurs paroles, de leurs mouvements, qui ne possèdent pas leur papier d'identité par exemple, qui ne savent pas où elles doivent aller, quel est l'itinéraire de leur voyage, etc. Et effectivement, c'est des signes auxquels on forme les personnels, par exemple d'hôtels, d'aéroports, etc., dans les transports, pour pouvoir repérer les victimes. Ce qu'il faut dire sur les actions possibles, c'est surtout appeler les numéros d'urgence. Si vous constatez une situation qui vous paraît anormale, n'intervenez surtout pas vous-même. Parce que ça peut être des réseaux de trafiquants, de proxénètes, etc., assez dangereux. Les numéros d'urgence, donc le 17, la police, évidemment. Spécifiquement pour les cas d'exploitation sexuelle, on peut aussi appeler le 3919. Les lignes d'écoutant, donc c'est la ligne pour les violences faites aux femmes, ont été formées sur ces questions-là. Il y a le 112 qui est le numéro d'urgence européen et le 119 pour l'enfance en danger. Effectivement, si c'est des cas de prostitution de mineurs ou d'enfants qui seraient dans des conditions d'esclavage domestique. Et après, je peux vous conseiller évidemment, c'est de suivre le e-learning, donc en ligne, sur le site contrelatraite.org, de lire notre petit livret qui est téléchargeable sur le même site, et de vous renseigner. On a tout un tas de ressources donc sur le site du CPDH, donc cpdh.org, et sur le site du collectif contre la traite, contrelatraite.org, des vidéos, des livrets, des ressources qui expliquent un petit peu plus ces phénomènes et les signes pour l'identification. Voilà. Après, il y a des associations spécialisées, effectivement, vous trouvez les coordonnées aussi sur ces supports qui sont formés pour accompagner ces personnes, parce qu'il faut savoir qu'il y a souvent un trauma psychique qui s'ajoute à l'exploitation, et en sortir, c'est pas forcément facile non plus pour les victimes, et ça requiert des compétences professionnelles pour pouvoir les accompagner, que ce soit sur les questions juridiques et aussi sur les questions psychologiques et de santé, etc. Voilà. Mais je vous encourage, si vous êtes à Paris aussi, de passer au mois d'août l'association Porteurs d'Espoir, qui est un de nos partenaires, a prévu plusieurs animations sur la traite des êtres humains pour les enfants, les adultes, notamment avec des casques de réalité virtuelle.
Ah oui, et, d'accord.
Ouais.
C'est quoi l'idée derrière, alors ?
L'idée, c'est de vivre un petit peu la situation d'une victime de traite en étant comme dans ses yeux, en
immergé.
Fait. Ouais, wow. Immergé, exactement. C'est une association qui s'appelle El Pozo de Vida. Nous, on a travaillé plus avec Impact France, mais voilà, qui sont en lien. Et 27 Million, ils font des actions sur les événements internationaux. Donc voilà, il y a pas mal d'outils en réalité. Il y a des activités à Paris, donc avec Porteurs d'Espoir. Et nous, on a déjà fait une exposition à Rouen. Voilà, cette exposition, elle va être aussi à Paris par l'association Porteurs d'Espoir. Et en tout cas, n'hésitez pas à nous contacter via notre site internet si vous avez des questions. On propose aussi des animations dans les églises à l'aide de supports vidéo et de petits livrets. On a même construit une petite étude biblique pour les enfants pour expliquer la question de la traite. Donc franchement, n'hésitez pas à nous contacter via le site. On répondra avec plaisir à toutes les sollicitations.
contrelatraite.org, allez puiser toutes ces ressources. Et une dernière question avant de Coralie vous remercier. Comment est-ce qu'on peut prier par rapport à un tel sujet si on est touché par rapport à cette question?
Il y a la question des victimes elles-mêmes, et effectivement, on travaille avec les pouvoirs publics pour améliorer l'identification de ces victimes et la systématiser, parce que ça, c'est vraiment une des problématiques majeures. Et effectivement, quand on se dit 4000 victimes identifiées en 2022, c'est ridicule par rapport au nombre réel estimé de victimes de traite en France. C'est ça. Donc là, il y a un gros sujet quand même de plaidoyer institutionnel sur lequel on travaille, et on a besoin d'être porté dans la prière sur ces sujets, sur notre discours et sur son efficacité. Après, effectivement, prier pour la prise en charge de ces victimes aussi au sein de nos communautés, parce que beaucoup sont issus d'un background chrétien, et on en retrouve dans nos églises. Donc peut-être faire plus attention aux personnes qui viennent occasionnellement, qui sont très discrètes, etc., qui sont peut-être dans des situations compliquées. Se former, pourquoi pas. Nous, on propose aussi avec l'Armée du Salut un petit programme de formation. Donc pour les personnes qui seraient intéressées, c'est possible aussi de se former sur l'identification, la prise en charge. Et pourquoi pas organiser une soirée de sensibilisation dans votre église.
Un grand merci, Coralie, chargée de plaidoyer de communication pour le Comité protestant évangélique pour la dignité humaine. Je rappelle une dernière fois le site internet, hein, bien sûr, contrelatraite.org.
Et cpdh.org,
bien sûr. Les réseaux Instagram également pour tous les outils, notamment.